France Inter.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Un Monde Nouveau, l'émission qui chaque samedi consacre une heure ou presque au chambardement de notre époque. Ce soir, parlons sport.
Rafael Nadal.
Merci la France, merci Paris. Vous m'avez fait santé comme un Français de plus.
La larmichette, ça c'était les adieux à Roland-Garros de la légende Rafael Nadal le week-end dernier. Moment d'émotion ultime autour du roi Rafa. Mais depuis ses débuts il y a 20 ans, 2004, où l'on restait suspendu devant sa TV 5 heures durant pour suivre ses matchs, la consommation des événements sportifs a beaucoup changé. On assiste même à un point de bascule. Le sport aujourd'hui ne passe plus uniquement par les chaînes de télévision. Il se disperse, se fragmente, s'adapte aux nouveaux usages, de plus en plus rythmé et taillé pour la diffusion d'extraits sur les réseaux, de plus en plus spectaculaire aussi, en fusion avec les codes du divertissement, ça a même un nom, le sportainment. Alors face à cette transformation, comment le sport peut-il se réinventer sans se renier? La mutation se limite-t-elle à une américanisation? Vous le saurez dans la première partie de cette émission et dans la seconde partie d'un monde nouveau, entretien exceptionnel avec l'historienne Laure Murat qui a quitté l'Amérique de Trump et qui signe un essai riche et percutant sur la tentation de retoucher les œuvres. Toutes les époques sont dégueulasses chez Verdier.
Qu'est-ce qui coince avec ce nouveau Blanche-Neige? Eh bien visiblement, tout.
La dernière version du classique de Disney, Blanche-Neige, en live action, c'est-à-dire avec des acteurs filmés, a subi le feu des critiques et réalisé un bide monumental au box-office. S'agissait-il d'une réécriture ou d'une réécriture? Vous saurez faire la différence avec notre invité, Laure Murat, tout à l'heure. Alors, comment les sports et les œuvres s'adaptent pour le pire et pour le meilleur au XXIe siècle? C'est le programme d'Un Monde Nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Dans quelques minutes, vous serez peut-être rassemblés entre amis, en famille, devant une finale de Ligue des Champions qui pourrait être historique pour le PSG qui passe encore à la télé sur M6 à 21h. Mais sur le terrain, comme dans les canaux de diffusion, le sport business est en pleine mutation. J'ai rassemblé autour de moi une dream team pour en parler. Marie-Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des premiers, aujourd'hui incontournables visages de la chaîne Being Sport. Vous couvrez le basket avec la NBA Extra, le handball... mais aussi le tennis. Vous assurez d'ailleurs en ce moment les interviews d'après-match de Roland-Garros. Merci d'avoir eu le temps d'être avec nous. Pierre Rando, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Et vous avez publié cette année « Les Français et le sport, bâtir une nation sportive, le défi français » aux éditions du Cherche Midi. Enfin, Pauline Payette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes joueuse et prof de tennis professionnelle, ancienne du circuit mondial WTA, mais aussi créatrice de contenu. Et vous êtes récemment lancée dans un nouveau format vidéo, Pauline versus Men, où vous affrontez des hommes sur un court de tennis façon Billie Jean King. Alors d'abord, une question à tous les trois. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir? Vous le regardez ou pas, ce match du PSG? Je commence avec vous, Marie-Patrick.
Évidemment que je le regarde, ce match du PSG. Je vais remplir mon appartement de gens que j'aime et je vais allumer ma télé. On va regarder ça tous ensemble.
D'accord, ça c'était le point de vue de la journaliste Omnisport. Et alors l'économiste Pierre Rondeau, il va regarder ou pas?
Bien évidemment, je vais le regarder. Alors je ne vais pas aller à Munich, mais je vais rester à Paris. Avec des amis, mais aussi concentré sur le match. Et on ne va pas me déranger à côté.
Concentré sur le match, ça, ça vous parle. La tenniswoman Pauline Payette, est-ce qu'elle va regarder le match?
Alors moi, je serai sur le court pour donner des cours. Mais dès la sortie, à mon retour chez moi, je serai avec plaisir devant le match avec mes proches.
Alors les audiences de Ligue 1 et de l'équipe de France périclitent en fait cette année. Ça, ce sont les chiffres. Est-ce qu'on est en droit de se poser la question de l'émoussement du sport à la TV, Pierre Rondeau?
Alors il y a une double distinction à faire entre à la fois les matchs du championnat de France et des équipes de clubs et les sélections. Vis-à-vis des sélections, les matchs sont diffusés en clair, c'est une obligation par décret. Et de fait, oui, effectivement, on constate que sur TF1 ou M6, il y a une baisse des audiences. Donc c'est plutôt un désintérêt pour des matchs presque amicaux, des matchs de Ligue des Nations, qui ne vont pas faire enflammer les foules.
Marie-Patrick, est-ce qu'on peut dire que Roland-Garros n'est plus la distraction numéro 1 des lycéens pendant leur révision?
Je ne pense pas. Alors je débriefe
Moi je l'ai fait, hein. Ah,
Ouais, mais je pense que tout le monde l'a fait autour de cette table. Tout le monde le fait encore aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait un désamour du sport à la télé, parce que, en effet, peut-être que les matchs de foot sans enjeu, sans réel enjeu, sont moins regardés, mais tout ce qui est 15 de France, rugby, tournoi destination a encore une fois cartonné. Roland Garros a cartonné, que ce soit en France, en Europe et sur le plan international. Donc moi, je crois encore que le sport est l'un des derniers événements qui va rassembler les gens et qui va permettre aux chaînes et aux diffuseurs de faire de très grosses audiences. Rien d'autre ne peut permettre aujourd'hui à un diffuseur de rassembler 15 millions de personnes, 20 millions de personnes. Il y a seulement le sport, on l'a vu cet été pendant les Jeux Olympiques.
Oui, c'est ça.
Je veux dire, c'est pareil, ça cartonne toujours autant.
Et c'est aussi un certain sport, on va en parler, hein, qui évolue, qui s'adapte aussi à un jeu avec la sphère du divertissement, etc. Il y a une fusion un peu des mondes de la culture pop.
Il y a l'envie d'offrir une expérience aux spectateurs. Mmh. C'est le grand mot aujourd'hui dans les organisateurs d'événements sportifs. On veut offrir une expérience. La performance sportive ne se suffit plus à elle-même aujourd'hui. Donc là, en effet, on peut parler d'américanisation, parce que quand on va voir un match NBA aux États-Unis, on vit une expérience, même si le match est nul. Il y a tellement de spectacles autour qu'on se dit « Ah bon, c'est quand même bien marré. La mascotte, elle est tombée dans les escaliers, c'était trop marrant. » Enfin voilà, il se passe toujours plein de choses autour de nous, et je pense que c'est l'envie aujourd'hui qu'ont les organisateurs d'offrir aux spectateurs ou aux téléspectateurs de montrer qu'il se passe des choses devant la télé, mais aussi et surtout dans le stade.
On reparlera aussi de circuits parallèles comme l'UTS de Patrick Mouratoglou avec vous. En tout cas, ça fait partie des questionnements de notre première partie d'émission. Une industrie du sport en pleine réinvention, adaptation, gamification, américanisation et encore d'autres trucs en yon. On en conversera donc avec vous, l'économiste Pierre Rondeau, vous, la journaliste Marie Patrux, et vous, la joueuse de tennis, créatrice de contenu Pauline Payet. C'est juste après la superstar africaine qui remplit les stades, le Nigérian Burna Boy sur France Inter. Back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to the here and now.
Then no fit touch my energy.
Back to reality. Back to life. Back to reality.
la superstar du Nigeria, Burna Boy, recommandé pour s'échauffer.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Il va y avoir du sport ce soir sur notre terrain. Nous sommes toujours avec la joueuse de tennis et créatrice de contenu Pauline Payet, la journaliste sportive de la chaîne Being Sport Marie Patrux et l'économiste des sports, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès, Pierre Rondeau. On estime que 65% de la génération dite Z, les 15-25 ans à peu près, suit le sport sur son smartphone puis à la télévision. Ça passe notamment par le visionnage de ce qu'on appelle les highlights. Les meilleures actions sont des séquences de 10 à 20 secondes très efficaces sur les réseaux. C'est ce que vous observez vous aussi chez vos élèves, Pauline Payet, la consommation de highlights.
Je me sens un peu visée parce que moi-même j'en poste sur mon propre compte des highlights. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à pas forcément mettre la faute directe dans le filet. Donc,
donner envie.
Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, j'essaie quand même de montrer la réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur un match de tennis, les highlights, ça reste une partie vraiment infime d'un match de tennis. Donc c'est pas vraiment la réalité. Même
c'est
si,
le point, c'est ça. C'est un point de 10 à 20 secondes. C'est une montée au filet. Bam.
Oui, c'est un coup exceptionnel, un twinner, un coup entre les jambes, une amortie, un rétro. Enfin, c'est un coup exceptionnel et qui est relayé partout, qui devient viral sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça permet finalement aux jeunes de regarder un petit peu de tennis quand même, et de les amener dans ce sport. Donc
ah oui,
c'est quand même positif.
Il y a un petit coup de canne à pêche, on hameçonne.
Oui, c'est impressionnant.
C'est comme un filtre sur Instagram.
Marie Patrice, vous avec la NBA, non, vous,
oui,
êtes, vous êtes fan en basket des highlights.
Bah, par exemple, j'ai envie de dormir la nuit. Le match est à 4h du matin, je vais me lever le matin, bah, je vais regarder le résumé de cette nuit qui va compiler les plus belles actions, ce qu'on appelle un highlight. Et en général, ce qui peut être peut-être gênant, puisqu'en effet, la nuit on dort, on regarde ce résumé-là en NBA, c'est qu'on va juger la performance de quelqu'un maintenant sur ses meilleurs moments et non pas sur la globalité d'un match. C'est ça peut-être qui va changer après dans la perception de la performance sportive pour le public plus jeune qui ne va se baser que là-dessus. Il faut à un moment donné remettre les choses dans son contexte et expliquer que ce dunk est fantastique, mais en fait il a perdu 50 ballons et il a raté tous ses tirs avant. Donc la performance n'est pas exceptionnelle, mais eh bien, le highlight aura fait qu'on ne retient que ça.
Et la NBA, donc la Ligue de basket américaine, elle publie en direct les meilleures actions. Ça fait complètement partie de son dispositif.
Ouais,
nous, on n'a pas.
Mais qu'on a de plus en plus. Roland-Garros, aujourd'hui, est un tournoi qui va poster énormément de petites vidéos qui vont donner envie aux gens, peut-être, de venir regarder le tournoi. C'est la meilleure des publicités, aujourd'hui, ce genre de reprise. La force de la NBA, c'est d'avoir autorisé, par exemple, les réseaux sociaux à utiliser ces images comme elle le souhaite. Ce que n'a pas fait la Ligue 1 pendant un moment donné, ce qui, à nos yeux en tout cas, n'a pas permis aux gens de voir ce que pouvait proposer la Ligue 1. C'est la meilleure des publicités, le highlight en fait.
Ouais. Est-ce que vous voulez le point de vue d'un des acteurs les plus sexy du monde sur ce sujet? Moi je pense que c'est important. Timothée Chalamet, français à la base de Saint-Etienne et supporter des Verts au foot, vous l'écoutez sur le plateau de Quotidien.
J'ai un demande de faire sur le YouTube de Ligue 2, c'est de mettre les résultats du match, mettre les buts un peu plus vite. Ils attendent que tous les matchs finissent parce que c'est Ligue 2, je sais pas pourquoi, mais montre-moi les highlights, tu vois.
Oui,
je suis à Los Angeles, j'attends les highlights, tu vois. Bon. Allez, les Verts.
Donc on est d'accord, on peut clôturer cette partie highlight, c'est-à-dire mini-résumé des matchs en disant qu'on en a besoin et qu'il faut absolument
là, de
les
fait,
proposer.
Un acteur américain, franco-américain, immensément connu, qui demande à ce qu'on mette en avant sur le continent nord-américain la Ligue 1, oui, de fait, on devrait le faire.
Alors on va passer à un autre sujet dans cette évolution du sport aux nouveaux usages, cette adaptation aux nouvelles demandes, à un nouveau public, la question des circuits parallèles. J'évoquais rapidement tout à l'heure l'UTS, c'est l'Ultimate Tennis Showdown, lancé par le célèbre ancien coach de Serena Williams, Patrick Mouratoglou. On l'a évoqué rapidement. C'est quoi l'UTS? Expliquez-nous. Tiens, je vous demande Pauline Payet. Après, j'ai une présentation de Mouratoglou, donc vous plantez pas.
Ah oui, d'accord. Alors, je suis pas spécialiste de l'UTS, je tiens à le dire.
Mais vous êtes tenniswoman, donc vous regardez ça quand même.
Oui, mais c'est vrai que c'est un format finalement qui révolutionne un petit peu le tennis. C'est vrai que moi, au quotidien, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Je peux pas me poser 3 heures ou 4 heures devant un match de tennis, c'est trop long, c'est trop lent. » Et est-ce que je peux comprendre dans nos vies assez chargées aujourd'hui? Donc c'est vrai qu'un format comme l'UTS où on va avoir beaucoup moins de temps de pause, des matchs qui vont être avec une durée limitée, donc ça apporte un petit challenge en plus pour les joueurs et un peu plus de spectacle aussi pour les spectateurs.
Et oui, parce qu'il y a une dimension un peu, on dit gamification, c'est-à-dire on s'adapte un peu au code du jeu vidéo, on peut tirer une carte en fait qui fait qu'on donne son deuxième service à l'adversaire et ça au moment de faire le service, c'est un suspense supplémentaire en fait.
Oui, complètement, en fait c'est comme un show. Il a très bien appelé son tournoi comme ça, mais c'est vrai que ça permet justement
tennis
d'avoir un petit
showdown.
Peu plus voilà, de spectacle et que ça soit un peu moins mou et long, on va dire, à regarder.
De toute façon,
et
le tennis essaie de se révolutionner.
Ouais.
La grande question, est-ce que les grands chelems doivent être encore disputés en 5-7? Alors, les traditionnalistes vont dire, on ne touche pas. Il y en a d'autres qui vont dire, bah, essayons. Patrick Mouratoglou, en fait, veut montrer que peut-être le tennis peut exister autrement. Et le tennis est aujourd'hui à un carrefour où il va falloir décider ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on reste comme ça, en peut-être manquant un peu une évolution, ou est-ce qu'on injecte un petit peu des éléments pour relancer ce sport qui est vieillissant, on peut dire, un peu à l'ancienne.
Alors la question, oui, c'est que la moyenne d'âge de l'amateur de tennis, selon les dernières enquêtes, c'était 62 ans. Et ça, Mouratoglou, ça l'a fait réagir. On l'écoute.
Voici l'UTS, l'Ultimate Tennis Showdown. Une compétition revue à la sauce jeux vidéo, avec des cartes bonus que les joueurs peuvent utiliser, du jamais vu dans le tennis pro.
Évidemment, les jeux vidéo ont été une inspiration. Évidemment aussi les séries, mais aussi le tennis des années 80 avec les Borg, les McEnroe, les Connors, les Nastase, des gens très identifiables qui donnaient une émotion folle sur le terrain et qui partageaient avec le public.
Patrick Mouratoglou, dans Stade 2, la question des personnages, elle est importante aussi. Vous parliez de l'expérience, Marie-Patrick, tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, dans l'incarnation, qui est toujours très importante pour le sport? Est-ce qu'on a eu une petite baisse, d'une certaine manière?
Quand on aime le sport, on a des idoles. Donc c'est très important d'avoir des personnages, en fait. Comme
pourquoi
le dit,
ils sont plus flamboyants, ceux-là, des années 80?
On a des gens flamboyants aujourd'hui. Le truc, c'est que le sport a été aseptisé. Parce qu'il ne fallait plus rien dire, il fallait que ce soit tout sur la même ligne, etc. Et soudainement, on a envie que les gens remontrent un petit peu plus d'aspérité, un peu plus de différence. Donc, on change notre fusil d'épaule en ce moment. C'est troublant, finalement, dans les idoles qu'on a eues. On
casse plus sa raquette. En revanche, dans un tournoi ETS, on peut le faire.
Oui, mais on a envie, finalement, qu'à Roland-Garros, ils cassent leur raquette. On ne reste pas indifférent à quelqu'un comme ça. Et je pense que c'est ce dont a besoin le sport pour exister. On ne peut pas rester indifférent à un personnage, c'est ça qui va nous permettre de nous attacher à lui et d'avoir envie de suivre son évolution.
Il y a deux semaines, Amine, l'un des plus grands streamers de France, c'est-à-dire des gens qui font du contenu en direct sur Internet, a fait la couve de l'équipe MAG. Il organise depuis peu la Kings League France, c'est une ligue de football aux règles particulières, là aussi encore un circuit parallèle créé par l'ancien joueur de foot espagnol Gérard Piqué, censé s'adapter justement au public d'aujourd'hui, aux nouveaux usages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette fois-ci, c'est à vous de le faire, Thierry
Rondeau, les bases.
J'avais la pression, les bases de la Kings League.
C'est un football qui ressemble à du futsal, donc c'est du foot accéléré avec des équipes de 7, diffusées sur Twitch donc. Et pareil avec ce système de gamification, on peut avoir par tirage au sort ou par vote du public des pénalties contre ou pour une équipe. Et c'est commenté en direct par des Twitchers et par toute une communauté de gamers. Et c'est effectivement très apprécié par la jeunesse. Et ça fait de gros succès d'audience sur Twitch.
Mais surtout, c'est un mélange, en fait, entre donc, des gens qui sont des stars d'Internet et des joueurs professionnels.
Ouais.
Il y a un mouvement comme ça, où les figures des plateformes et des stars, donc des réseaux et des plateformes, fusionnent avec le sport. Les plateformes elles-mêmes, comme Netflix, se positionnent sur le sport en direct. Match de boxe événement avec un YouTuber célèbre et controversé, Jake Paul, cette année, face à une légende de la boxe professionnelle, Mike Tyson. Il y a la diffusion du foot féminin, qui est prévue sur Netflix. De 2027.
Disney Plus,
pardon. Heureusement qu'ils sont là, les spécialistes. De 2027 à 2031. Donc, qu'est-ce que ça annonce, Marie-Patrick? Là aussi, on a la croisée des chemins. Il y a une recomposition du jeu de...
Bah oui, de toute façon, le jeu des droits est un éternel jeu. Alors pour nous, journalistes, encore plus, puisqu'on est dedans et on dépend de ça.
Mais donc, là, sachant qu'on a des streamers, donc disons de la culture des plateformes.
C'est le public, on cherche à attirer un public jeune. C'est un peu comme tous les médias, on veut parler aux jeunes aujourd'hui. Donc le sport veut parler aux jeunes, donc le sport essaye d'attirer les jeunes de par tous les moyens possibles. C'est-à-dire en changeant les formats de compétition, mais aussi en changeant les formats de diffusion. Après, on verra ce que ça donnera. Pour l'instant, la télé reste l'élément qui le permet de rassembler le plus de personnes. On n'a pas encore passé le cap, on le passera peut-être, mais pour l'instant, les 15 millions, ils sont devant la télé, les Jeux Olympiques l'ont montré encore cet été.
Et Pierre Rondeau. La seule différence, c'est vrai qu'on a tous souvent tendance à mettre en avant la Kings League pour dire que le football doit se réinventer parce que face à la concurrence, il pourra grappiller des parts de marché. J'ai plutôt le sentiment que la Kings League se met en complémentarité avec le football. Les viewers, les spectateurs de la Kings League sont des jeunes qui n'ont pas encore le pouvoir d'achat et le portefeuille pour payer des abonnements, mais par contre, ils s'intéressent au football via les jeux vidéo ou via la Kings League, mais une fois qu'ils seront salariés, qu'ils auront un salaire et qu'ils pourront dépenser de l'argent, qu'ils auront un portefeuille, qu'ils auront un pouvoir d'achat, ça sera les premiers à aller s'abonner à Bein ou à Canal. Donc,
ou aller au Parc des Princes.
Ou aller au Parc des Princes.
Voilà, comme ça,
c'est vraiment une forme de complémentarité, mais c'est pas une opposition entre le football professionnel et la Kings League.
Un match en vrai, waouh.
Mais oui.
Vous allez loin quand même.
Mais ouais.
On est en 2025. Pauline Payet, vous avez une autre solution, c'est que vous démarrez deux carrières en même temps. En fait, c'est aussi une autre option. On est à la fois joueur professionnel et créateur de contenu, c'est votre cas. Vous êtes joueuse de tennis professionnelle, vous avez été classée au classement mondial, mais vous êtes aussi une créatrice de contenu. Qu'est-ce qui vous a amené à le faire? Et dans le tennis, d'ailleurs, c'est pas très fréquent.
Non, c'est vrai, justement, j'ai décidé de me lancer. Alors, ça me trottait dans la tête pendant le confinement, justement, quand tous les cours de tennis étaient fermés et que j'étais chez moi tranquillement à me demander ce que j'allais faire. Et donc, on m'avait toujours dit que je passais plutôt bien la caméra. En fait, je ne voyais pas du tout de contenu tennis dans le milieu francophone et encore moins chez les femmes. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Alors, vas-y, lance-toi. Au début, j'étais terrorisée parce que je suis assez réservée de base. Donc, ça a été hyper, hyper difficile au départ de poster des vidéos et de me mettre en avant. Mais aujourd'hui, j'ai construit une belle communauté et je suis très fière de continuer.
Une communauté qui se compose comment? Qui vous suit?
Alors aujourd'hui, je
vous
suis
avez
principalement...
les stats, comme on dit.
Ouais, alors ça fait 65 000 personnes sur YouTube, Instagram et TikTok.
Et homme-femme, ça se répartit comment justement?
Homme-femme, alors ça dépend
vieux, jeune,
plateformes. Ça dépend des plateformes, mais j'ai à peu près 30% de femmes qui me suivent, donc c'est plutôt bien. Ça correspond à peu près aux chiffres de la Fédération française sur la répartition homme-femme. Et après, par rapport à l'âge, c'est plutôt entre 20 et 45 ans.
Et vous avez eu envie de proposer un type de format particulier, c'est Pauline versus Men. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup trop de clichés sur, on va dire justement, l'aspect spectaculaire des matchs de tennis masculin par rapport aux matchs de tennis féminin, c'était ça?
Oui, c'est vrai que je trouve qu'en tout cas en France, le tennis féminin n'est pas assez mis en avant, enfin à tous les niveaux. Que ce soit chez les débutantes et aussi chez les compétitrices et à très haut niveau. Et donc moi, j'avais justement à cœur, à travers ce contenu-là, de mettre le tennis féminin un petit peu plus en avant, même si, encore une fois, je suis une grande fan du tennis masculin.
Mais là, c'est mixte, du coup.
C'est mixte. Et donc, justement, on disait souvent que telle fille ne jouait pas tel classement. Et je me suis dit, tout le monde parle dans les clubs, c'est un sujet qui fait débat. Pourquoi pas arrêter de parler et justement prendre la raquette et aller sur le terrain, faire les matchs. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire sur ma chaîne YouTube, en proposant à chaque fois un épisode par classement, après chaque victoire.
Et ça va, il n'y a pas trop de haters dans les commentaires?
Et il y en a un petit peu, mais heureusement, il y a beaucoup de commentaires positifs.
Marie-Patrick Spierrondeau, puisqu'on parle de ces évolutions du sport, les compétitions mixtes aussi, ça serait quelque chose là dans le 21e siècle qui est loin d'être terminé. On a juste fait le premier quart.
Ouais, on n'en est pas là du tout, hein. Ouais, clairement.
Marie-Patrick.
Okay. Alors déjà, quand même, la grande avancée, c'est qu'on vend des compétitions masculines et féminines ensemble. Ça, ce qui n'arrive pas avant.
On achète un pack.
Ça, c'est déjà une grande avancée.
Ouais.
C'est pas mal. Après, il y a quand même une avancée dans la diffusion du sport féminin, on va pas se mentir. Aujourd'hui, vous allez avoir une finale d'un championnat du monde de handball en décembre. Ce sera sur une chaîne en clair et ce sera également le cas pour les garçons. Ça a été le cas sur TF1 quand les filles avaient du succès en même temps que les garçons. Donc, sur le sport féminin, il y a quand même une grande avancée. Le côté mixte, non, ça n'arrivera pas.
Pierre Rondeau, d'un mot, parce qu'on doit conclure.
Grande avancée, je vais relativiser, parce qu'on a eu quand même récemment la finale du championnat de France Paris-Lyon, qui n'était pas diffusée en clair. Alors qu'on avait quand même une finale de championnat de France féminin, diffusée en crypté.
Oui, mais qui est diffusée.
Oui,
alors
diffusé,
voilà, l'avancée, elle est là. Chaque chose avance à son rythme.
C'est
déjà, c'est diffusé, et après, peut-être que ce sera en clair.
Merci tous les trois, on en reparle dans 25 ans. La joueuse de tennis et créatrice de contenu Pauline Payet était avec nous, la journaliste omnisport de la chaîne Being Sport, Marie Patrucs était là, et l'économiste des sports, Pierre Rondeau. Merci, vous restez avec nous dans un instant. Il sera encore question d'Amérique, d'une certaine manière, avec l'historienne Laure Murat, qui démêle comme jamais les fils de ce qu'on appelle la cancel culture dans son nouvel essai.
T'aimes quand ça tire, faut leur faire mal.
Plus fort,
c'est triste, hein, ta vie,
ouais,
sans
ouais.
Moi, c'est bien mérité. L'amour c'est le prix
en dollars.
T'as pas payé ta place.
Non, non.
Pars ou je dégaine le métallique comme les cow-boys d'Amérique.
Autrice, compositrice et interprète Éloi sur France Inter, influencée autant par Nougaro, le rap, le rock et Sexy Sushi. Éloi a ouvert un nouveau cycle musical avec son dernier recueil de titres, Blast.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Bonsoir Laure Murat.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous ce soir. C'est la joie, je le dis comme je le sens, parce que j'ai adoré lire votre dernier essai. Ça m'a stimulée, ça m'a aidé à comprendre ce qui défilait de manière hystérisée sur mon téléphone depuis quelques années. Vous êtes historienne, officiellement professeure à UCLA jusqu'en 2026, même si vous avez quitté les États-Unis après la réélection de Donald Trump. Vous en avez parlé sur cette antenne à France Inter. Et vous signez ce court essai « Toutes les époques sont dégueulasses ». Chez Verdier, d'abord, ce titre emprunté à Antonin Artaud. Si toutes les époques sont dégueulasses, c'est qu'aucune ne le sont. C'est ça, déjà, c'est la première bonne nouvelle.
Probablement, probablement. En tout cas, accabler le passé en disant qu'il est pire qu'aujourd'hui ne me semble pas juste. Toutes les époques sont dégueulasses, ou en effet, aucune ne l'est.
Un livre, Toutes les époques sont dégueulasses, où vous renvoyez dos à dos ce qu'on range, on va dire, allez, sous la grosse étiquette des wokistes, qui défendent l'idée de caviarder des œuvres pour les nettoyer de leur passage misogyne, raciste, homophobe, et puis ce qu'on range sous les conservateurs qui hurlent à la censure. Vous dites que ces deux camps tapent à faux. J'adore cette expression. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, tapent à faux, et pourquoi ils tapent à faux?
Parce que je crois qu'ils mélangent deux problèmes. Et c'était, ça a été ça mon souci pendant toute la rédaction de ce livre. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai compris au bout d'un moment qu'on mêlait une action qui est celle de réécrire les textes, c'est-à-dire comme Racine réécrit Euripide quand il écrit Phèdre, par exemple, ou quand Proust fait des pastiches de Saint-Simon, ben, il réécrit Saint-Simon.
Ulysse et James Joyce, vous en parlez.
Voilà, qui réécrit Homère, par exemple. Et puis aussi, quand on adapte un roman au cinéma, au théâtre, Mérimée qui est adapté à l'opéra par Bizet, par exemple. Bon, vous voyez, tout ça, ce sont des actions qui sont tout à fait légitimes, qui sont des transformations à visée esthétique. Et puis, il y a une autre action.
Alors ça, on va les appeler tout de suite, ce sont les réécritures.
Alors, j'ai profité de l'astuce de la double orthographe du mot « réécrire » en français, puisqu'on peut dire « réécrire » avec deux « e » ou « réécrire » avec un seul. Et donc, j'ai postulé, mais évidemment, on ne trouvera pas ça dans le dictionnaire, mais « réécrire », ce serait « aviser esthétique » et « réécrire »,
alors là,
ce serait alors tout le reste, c'est-à-dire, ça peut être aussi relire pour corriger typographiquement, par exemple, ça peut être... réécrire en adaptant un texte ou plutôt en le rendant conforme à notre idéologie contemporaine.
Ouais, un certain nombre de normes en fait. La réécriture,
voilà,
c'est l'adaptation d'un texte à une série de normes.
À une série de normes, à une série de normes idéologiques. Mmh. Alors on peut
sans visée esthétique du coup.
Ce n'est plus la visée esthétique, c'est une visée morale. Après tout, on peut se dire. Mais on n'a plus envie de voir tous ces postulats racistes, ces commentaires homophobes, cette misogynie qui infuse la littérature. Honnêtement, on peut se dire, bon, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'en débarrasser? Parce qu'au fond, on peut penser ça.
La réécriture, en tout cas, part de cette intention. Mais peut-être, comme vous le savez, parfois l'enfer... et pavé de bonnes intentions. On va comprendre pourquoi avec vous. Mais d'abord, je voudrais signaler que c'est un livre extrêmement drôle. Et pour comprendre le distinguo entre réécriture, donc à visée esthétique, et réécriture à visée morale, vous dites en gros, c'est comme si on confondait, on va dire, James Joyce reprenant en effet l'Odyssée d'Homère et le type qui est chargé d'enlever les mots gros dans les textes de Roald Dahl. En fait, c'est ça la confusion qu'on fait.
Bah oui, parce qu'avec un exemple aussi caricatural, on comprend tout de suite, bien entendu, qu'il ne s'agit plus de transformer un objet A en objet A' avec de l'inventivité, de la créativité, mais plutôt de retrancher des choses pour ne pas choquer notre regard contemporain.
Et c'est un livre qui circule en ce moment parce que vous faites des présentations dans la librairie, vous faites salle comble et même débordée puisque ça fait la queue dehors. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi ça stimule tant? Parce qu'on n'avait pas de recul sur des polémiques, quand je parle de Roald Dahl, qui sont en fait de ces dernières années, quoi. Ou encore Agatha Christie, on va en parler. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on est bloqué sur ces sujets, mais on ne savait pas comment les regarder.
Ben, ce sont des sujets d'abord qui sont complexes, qui sont compliqués. Les journalistes s'en emparent pour dire est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre.
Et montent un plateau en conséquence.
Voilà, ça polarise un peu plus le débat qui est totalement crispé. Or, il suffisait de regarder un petit peu, de déplier l'objet du savoir, de relire les textes, de comprendre comment tout ça fonctionne. Et je crois que la raison de ce succès, c'est que les gens viennent me voir et me disent « on est soulagé ». C'est le mot qui revient le plus. Alors ça m'a beaucoup intriguée, ce mot de soulagé.
Soulagé de quoi? Peut-être de ne pas être rangé dans un camp ou dans un autre.
Exactement, de pouvoir, d'avoir le temps de faire cette pause pour comprendre et pour regarder un petit peu les choses dialectiquement, comme on disait autrefois. C'est-à-dire avec la contradiction, avec la complexité, etc. Et ça me fait très plaisir, parce que je crois qu'on est dans une époque où on vit selon des injonctions. On est sommé de penser ceci ou de penser cela, sous menace de trahir son camp. Vous voyez, c'est extrêmement rigide et je pense que ça rend malheureux. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pu faire ça et j'en suis très heureuse, c'est que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'ai jamais été sur les réseaux sociaux, qui je pense sont un espace de haine, de violence, de diatribes et d'injonctions dont les gens ont marre en réalité.
Du mal que peuvent faire parfois les réseaux sociaux aux intellectuels. On a vu quelques parties, quelques-uns partir dans le décor, c'est vrai, par ce stimuli en fait clivant que sont les réseaux. Vous avez un exemple que j'aime beaucoup qui est celui de James Bond, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, l'intention d'avoir des textes qui ne seraient pas baignés de cette misogynie, par exemple dans le cas de James Bond, elle est bonne, sauf qu'elle est profondément inopérante. C'est ça qui est intéressant. D'abord, il y a deux choses, on ne pourrait rien comprendre à la misogynie ordinaire des années 50 si on touche à James Bond, et on a besoin de ça dans l'histoire. Et puis, en plus, on laisse passer beaucoup de choses. Vous citez des passages, on a supprimé le N-word, le fameux nigger pour des raisons de racisme, mais par contre, le racisme anti-asiatique, lui, il a le droit à toutes ces expressions les plus fleuries et les plus terribles.
Et c'est ce dont je me suis rendu compte en réfléchissant à cette question. Je précise que pour moi, dans mon cerveau, c'était le chaos complet. Je comprenais rien à ce qui se passait. Une fois que vous regardez de près comment fonctionnent ces réécritures, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que c'est totalement incohérent. Alors, on enlève une chose ici, on laisse un commentaire là, et ça n'a en réalité aucun sens. Et quand bien même vous voulez édulcorer complètement un texte, des mots qui fâchent, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de l'esprit, hein, c'est de l'histoire de la lettre et de l'esprit. Et ça serait l'équivalent d'enlever des poissons crevés d'un étang dont l'eau est de toute façon empoisonnée.
Autre exemple, justement, et cette expression que j'aime beaucoup chez vous, qui est l'inconscient bavard. Vous citez le cas d'Agatha Christie, on connaît Ils étaient 10, donc le nouveau titre, la comptine qui accompagne le livre d'Agatha Christie, mais même en changeant la comptine, en changeant le titre, avec le fameux N-word, hein, le titre original. En fait, on ne peut pas enlever la pensée d'Agatha Christie, l'Agatha Christie de l'époque.
Mais oui, c'est ça qui m'a beaucoup frappée, parce que, bon, alors, les dix petits nègres, alors, parce que là, ça devient un problème assez compliqué. Qu'on enlève ce mot insultant dans le titre, je suis plutôt en faveur de ça.
Il s'affiche pas sur les couvertures partout dans les librairies.
Voilà, dans l'espace public. Bon, mais alors, si on est consistant, il faut l'enlever aussi dans le livre, et le remplacer par quoi? Alors, c'est extraordinaire, parce que d'abord, ils avaient pensé, il y a eu pendant toute une période, ça s'appelait les dix petits indiens. Donc on passait d'un racisme à un autre. Bon. Bon, puis ils ont compris que ça n'allait pas, donc ils ont appelé ça les dix petits soldats. Bon, d'accord.
Donc là, tout le monde était OK pour taper sur les soldats.
L'armée n'a rien dit. Bon, d'accord. Mais ils laissent en même temps des commentaires sur le fait, sur l'inégalité des races, par exemple. Bon, Agatha Christie était conservatrice idéologiquement. Elle soutenait l'idéologie coloniale. Elle était en faveur de la colonie britannique. Bon, et c'est donc tout l'esprit du livre qui baigne là-dedans. C'est pas en enlevant une phrase ici ou une phrase là que vous allez changer le fond de l'affaire, bien sûr. Mais surtout, pardon, oui, j'ajoute juste une chose. Ajoutez. Cette série de petites falsifications que je trouve un peu médiocres, comme ça.
Et inopérantes en plus.
Et inopérantes, aboutissent surtout à un mensonge historique.
C'est ça, le contresens, on y vient. Du coup, on invente autre chose sur l'auteur.
Bah, on crée un auteur qui n'a jamais existé, qui est pleine de contradictions, puisqu'il y a en plus des commentaires racistes qui restent. Enfin, vous voyez, tout est embrouillé. Et je crois que le grand danger, c'est quand on vous dérobe l'objet du débat. Parce que si vous ne savez plus où est l'ennemi, comment est-ce que vous voulez construire quoi que ce soit?
Oui, vous dites, c'est priver les opprimés de la mémoire de leur oppression. Cette trace, elle est indispensable.
Mais bien sûr, parce que, une fois de plus, qu'est-ce qu'on saurait de la misogynie, qu'est-ce qu'on saurait du racisme, etc., dans la littérature, si on commence à vous nettoyer tout ça de façon à la fois arbitraire et qui, en plus, à mon avis, ont des motivations économiques, vous voyez, parce que c'est la poule aux œufs d'or, tous ces livres. Hein. Je ne cite que des grands best-sellers.
C'est une des motivations, c'est que ça puisse rester en librairie, que ça puisse continuer à se vendre. Et ça, vous dites, finalement, c'est le, on va dire, la grande idéologie derrière la réécriture, pas la réécriture, mais la réécriture, c'est l'argent. On va prendre des cas précis, par exemple, celui d'Hergé et de Tintin au Congo, bien sûr, dont on a essayé de gommer la vision raciste et colonialiste. Alors ce cas-là, il nous dit quoi? Il y a à la fois aussi un retour d'Hergé lui-même sur sa propre œuvre. Donc là, on est dans un cas de quoi, Laure Murat?
Alors Hergé, c'est un cas très intéressant parce que Tintin au Congo, bon bah c'est un album, c'est l'album le plus populaire auprès des enfants, c'est l'album le plus vendu.
Ouais.
On va pas changer les dessins, on pourrait éventuellement changer un peu les bulles, mais ça ne suffirait pas. Une fois de plus, ça ne suffirait pas. Alors les associations noires, et je trouve à raison, ont réclamé à corps et à cri depuis très longtemps une préface à cet album. Et je trouve que la préface, a priori, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que le livre est un objet plastique, on peut l'encadrer sans toucher à l'intégrité du texte. Et le présenter, et arrêter de prendre les lecteurs pour des idiots, hein, de dire, bon, vous allez lire un livre qui, objectivement, est raciste, parce que ça, franchement...
Voilà, c'est ce qu'on appelle la contextualisation.
Voilà, la contextualisation. Malheureusement, l'éditeur a choisi le président des Amis de Moulinsart, enfin, je crois que c'est son titre, en tout cas un vrai défenseur d'Hergé, qui a vraiment à cœur de justifier le grand homme en expliquant que c'était un homme de son temps et que voilà.
Bon. On va écouter Hergé lui-même d'ailleurs, qui le dit.
C'était en 1929, n'oublions pas. Ça paraissait aller de soi que de toute éternité, les Noirs étaient faits pour servir les bons Blancs qui étaient là-bas. Enfin, nous en voyons d'ailleurs de bons missionnaires, des hôpitaux, des chemins de fer, que sais-je encore, tous les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation. Donc j'étais colonialiste comme tout le monde était colonialiste. Et il m'est arrivé d'être raciste parce que c'était le contexte à l'époque, mais que le mot lui-même n'avait jamais été prononcé à l'époque. On ne savait pas ce que c'était que le racisme.
Hergé, à la fois en 73 dans l'émission de télé de Gilles Debure, et puis un bout aussi de Radioscopie en 1979. Bon, j'étais raciste, mais comme tout le monde l'était, d'ailleurs le mot n'existait pas, dit Hergé. Vous, vous expliquez dans votre livre, Laure Murat, qu'en fait, il y a des contemporains d'Hergé qui n'ont pas les mêmes points de vue. Et c'est ce qu'omet de dire la préface de Tintin au Congo, par exemple.
Alors, il faut reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'en effet, l'exposition coloniale en 1931, je crois, accueille 8 millions de visiteurs. L'exposition anticolonialiste et surréaliste, 4 000. C'est ça, être un homme de son temps, vous voyez.
Bon, quand même.
Quand même, il faut voir ça. Mais au même moment, vous avez Georges Simenon, qui est le compatriote de Hergé, ou André Gide, qui dénonce les méfaits du colonialisme au Congo. Donc, il y a déjà des enquêtes, il y a déjà des controverses, ça existe. Alors là, je crois que ce qu'on touche, évidemment, c'est ce qui s'appelle le déni. Et on est tous, à un moment donné, dans une forme de déni. Moi, j'ai pas envie de faire le procès d'Hergé, ça m'est égal, ça m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait une préface, il faut la faire le plus honnêtement possible.
On n'est pas dans une entreprise, justement, de réécriture
exactement,
de l'histoire d'Hergé.
Exactement. Et j'aurais été heureuse, moi, comme lectrice, de savoir, par exemple, comment les bédéistes de l'époque représentaient les Noirs. Comment Hergé se situe dans les années 30 par rapport à d'autres auteurs de BD qui représentent des Noirs. Par exemple, vous voyez, il y avait des choses comme ça qui n'apparaissent pas, puisque l'auteur n'a à cœur que de défendre Hergé en disant, ben voilà, il est allé s'inspirer du musée de Tervuren, qui est le temple de la défense du colonialisme.
Oui.
Bon, alors il y a peut-être beaucoup de gens
comme
qui aimaient
ça. Comme s'il n'y avait que ça comme référence et comme iconographie.
Voilà. Alors, vous savez, c'est toujours simple de taper sur la tête de gens il y a 50 ans. Hein. C'est toujours l'histoire, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, etc. Hergé fait la caricature d'un banquier juif, qui est une caricature vraiment atroce, qui rappelle les pires moments de l'histoire. Il l'a fait en 1942, à une époque où il y a des gens qui savent et puis il y a des gens qui ne savent pas. Mais il y a beaucoup de gens qui savent, quand même. Il était au service de l'abbé Wallès, qui était un fasciste, et qui a été arrêté et qui a passé 5 ans en prison après à la Libération.
Et même Benoît Peters, le grand spécialiste d'Hergé, qui est rentré au Collège de France pour faire justement des leçons sur la BD, l'explique. C'était un jeune homme très à droite, Hergé, et voilà, il faut le regarder tel quel. En fait, ce que vous dites, c'est l'outil de la préface, ne l'abîmons pas, il est formidable,
voilà,
à condition d'être honnête. Alors, autre outil, puisque dans cette espèce de mot cancel culture, une culture de la suppression, de la révision, on met un peu tout, la question des sensitive readers, alors on va le dire en français, les lecteurs sensibles, ce sont aussi des outils par rapport à, on va dire, ce choc entre des pensées qui peuvent être voilà, extrêmement offensives et les œuvres, on a un autre dispositif qui sont les lecteurs sensibles chargés de voir si on offense telle ou telle communauté. Alors, ils sont très souvent attaqués. Et vous citez un cas célèbre dans nous, notre histoire littéraire française, c'est Kevin Lambert, auteur québécois, qui avait fait relire son texte par une amie haïtienne et qui a été critiqué par Nicolas Mathieu sur les réseaux. On l'écoute.
La question des stéréotypes, c'est évidemment une question qui se pose en littérature puis qui se pose depuis longtemps, mais c'est pas la seule du tout. Il y a plein d'autres éléments dans un roman qui a des stéréotypes. Puis pour moi, l'expérience de dialogue éditorial, ça dépasse largement la question du stéréotype. Puis c'est moi qui écris tout, mais je rencontre tellement de monde quand j'écris, je fais de la recherche. Puis c'est pas pour transcrire le réel de manière plate et directe, c'est pour aller chercher une sorte d'oscillation vraie.
Une oscillation vraie, dit Kevin Lambert, c'est dans Nouvelle Tête, hein, chez nous, en septembre 2023. Et donc lui, il a dû répondre à un autre écrivain, Nicolas Mathieu, qui disait, dans des termes assez rudes, hein, que vous comparez un peu à une tradition pamphlétaire droitière, Laure Murat, que finalement, voilà, on était en train de tuer la littérature. Et vous défendez plutôt cette idée qu'on
consulte. Ah oui, oui. Moi, à partir du moment... Vous savez, quand vous écrivez, je ne sais pas moi, un roman policier, vous allez voir des détectives, des policiers, des gangsters, j'en sais rien. Voilà, quand vous faites un livre sur l'hôpital, vous allez voir des médecins. Enfin, ça ne me paraît pas extraordinaire de vouloir se renseigner. Mais bon, libre à l'auteur, il faut pas que, c'est toujours la même histoire, il ne faut pas que ce soit imposé, ni par l'éditeur, ni par une instance extérieure. En revanche, employer des sensitivity readers pour falsifier les textes du passé, hein, pour choisir... Évidemment, ça part d'une bonne intention de ne pas insulter des communautés qui le sont suffisamment comme ça encore aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que c'est d'abord un problème politique, hein, pour commencer.
Vous avez une autre solution, Laure Murat. Si une œuvre vous dérange, ne la lisez pas, ne la regardez pas, finalement. C'est peut-être ce qui est le plus simple.
Ben, écoutez, ça me semble... Oui, ça me semble plus simple, plus sain aussi. Voilà. Alors évidemment, on me dit c'est simpliste. J'assume. ben non, vous ne les lisez pas. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse...
Et n'empêchez pas les autres de les lire.
Exactement, n'empêchez pas les autres de les lire. Et surtout, regardez ce qui se fait aujourd'hui. Kev Lambert, il s'appelle maintenant, je crois, est un excellent exemple. C'est un très grand écrivain, à mon avis,
oui.
qui vraiment s'attache à la complexité des choses. Et je crois qu'on peut parler de la misogynie, de l'homophobie, du racisme aujourd'hui, avec des termes contemporains. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et l'autre chose qui m'intéresse...
C'est-à-dire sortir d'une forme de paresse, trouver les mots pour dire cela aujourd'hui, au XXIe siècle.
Voilà, et comment configurer tout ça dans la forme littéraire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la poutre qu'on a dans l'œil et dont vont bien rigoler les gens dans 30 ou 50 ans.
En tout cas, j'espère qu'ils liront votre livre comme moi je l'ai aimé et je le relirai peut-être dans 50 ans si je suis là. Laure Murat, toutes les époques sont dégueulasses, publié chez Verdier. Rendez-vous vous aussi dans 50 ans. Merci à Marie Patrux. On vous retrouve sur Being Sport avec les playoffs NBA et Wimbledon très prochainement. Et puis le débrief de Roland Garros en ce moment. Merci à Pierre Rondeau. Votre livre Les Français et le sport, bâtir une nation sportive, le défi français aux éditions du Cherche Midi. Et puis merci à Pauline Payette. On vous suit sur les réseaux et sur YouTube. On incite tout le monde à découvrir votre série Pauline versus Men, où vous affrontez des joueurs masculins pour lutter contre les clichés. Merci aussi à toute cette équipe merveilleuse d'un monde nouveau. Nous avons la rédaction en chef Redouane Tella, à la réalisation Stéphane Ronxin, à la préparation Marion Philippe, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin et à la technique cette semaine Maxime Goudard.